L'air, soufflant, porte secrète, psychologue, femme, lumière, chance, souvenir, d'immense porte, violette, porte secrète, futur, bonheur, réalité, imaginaire, surtout l'air, écoute ton cœur, le noir de l'univers, secrète, ce qui est en toi.
Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. L'air enfermé du cabinet inonde mes poumons alors que je force mon corps à faire cette insupportable chose répétitive et lassante qui me maintient en vie. Les grands sages diront que je suis stupide de ne pas voir en la respiration une boucle saine et productive qui puisse ramener le calme et la sérénité à tout être se concentrant dessus. Moi, je vois plutôt en cela l'unique corde à laquelle on peut s'accrocher lors des méditations et la seule fenêtre qui nous sépare de la mort. La psychologue sent que je suis retournée dans mes pensées et me demande de rouvrir les yeux. Je ne comprends vraiment pas comment elle fait pour savoir quand ses patients ne l'écoutent plus. C'est sûrement grâce aux nombreuses fois où cela a dû arriver. Elle débute son habituel discours de propagande sur les vertus de la méditation. Je fais mine de l'écouter attentivement alors qu'en réalité, j'observe l'évolution des rides qui se creusent un peu plus chaque jour sur son front. C'est drôle la vieillesse. Quand on y pense, ce n'est pas si horrible. Bon, d'accord. On s'approche, au niveau physique, plus d'une vieille écorce de chêne que d'une Barbie. Mais plus notre âge est grand, plus on se fait respecter. Facile à dire pour moi qui profite encore de toute ma jeunesse. Mais j'aimerais tellement avoir juste quelques années de plus que cette piètre écorce pour pouvoir lui faire une bonne leçon de morale comme elle prend tant de plaisir à pratiquer avec moi tous les samedis. Et mince, elle a compris que je ne l'écoutais pas. Elle se dirige en soufflant vers la fenêtre. Et j'ai le temps de me rappeler pourquoi je suis là avant que l'obus de ses reproches ne m'arrive sur les pieds. Mes parents sont riches, très riches. Je suis très entourée et de ce qu'on dit, appréciée. Ma vie est belle et facile, mais pourtant, je suis malheureuse. Le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur » prend avec moi tout son sens et je peux vous l'affirmer, les yeux dans les yeux. Voilà pourquoi je suis ici. Car ma mère a décidé de confier la tâche de comprendre pourquoi je ne suis pas emplie de joie à chaque instant de ma vie à la psy la plus réputée de la région, qui, elle non plus, ne comprend pas mon problème. Je l'entends ensuite déclarer que ce n'est pas une psy que je dois aller voir, mais une hypnotiseur. Quelle idée délirante! Puis, pensant que mon ouïe ne me permet pas de l'entendre, elle déclare à tout bas que c'est le parfait prétexte pour se débarrasser d'un cas aussi désespéré que le mien. Même si je pense que son diplôme n'est qu'un bout de papier périmé, je me retiens de proférer ces atrocités que ma mère ne tolérerait pas à voix haute. Fin de séance. Mais voilà, dans la grosse voiture de mon père, direction le dernier recours. Le silence qui pèse dans l'atmosphère me fait comprendre que mon paternel ne supporte pas le fait qu'il se donne tant de mal, lui et ma mère, pour comprendre ce qui m'arrive, pour qu'après 5 mois, les factures pour la psy n'aient abouti à rien. Je le comprends, mais je n'ai jamais rien demandé, moi. Si vous savez comment on se rend heureux soi-même, faites-le-moi parvenir par pitié. Le paysage aux multiples visages défile sous les yeux à l'allure des voitures sur l'autoroute. C'est amusant d'observer que ce que l'on voit au loin, très loin, défile très doucement, contrairement aux Airbus qui bordent l'autoroute. Belle métaphore, non? Ce qui est proche de nous, nous pensons le maîtriser. Alors qu'en réalité, cela va trop vite pour que l'on puisse avoir quelconque influence dessus. À moins de ralentir, exactement comme pour le bonheur. Brusquement, notre voiture vire à droite. Je me prends la vitre en pleine figure. Alors que mes jurons préférés sortent instinctivement de ma bouche, la voix dure de mon père prend le dessus et me fait taire. Il aurait apparemment vu la sortie trop tard pour tourner en douceur. La route devient plus étroite et les virages plus fréquents, jusqu'à ce que l'on arrive à un rond-point désert. Cette fois-ci, mon père aborde le virage lentement et nous prenons la sortie direction Flainville tout en douceur. Là encore, le paysage de campagne nous suit inlassablement, mais peu à peu, ce calme olympien est perturbé par l'arrivée de bâtiments divers et variés. Je comprends alors que nous arrivons dans le centre-ville. Nous suivons les panneaux indiquant la direction du cabinet d'une certaine Madame Graziola. J'imagine alors une femme importante, avec des ongles aussi longs que mon petit doigt de couleur violet. Une grande, avec des cheveux bruns et sales, des yeux vitreux. Oh, un frisson me parcourt l'échine quand je pense à cette créature imaginaire. Nous descendons de l'auto et nous dirigeons vers la porte d'entrée. Le bâtiment est simple, gros pavé gris et froid, comme on en voit de plus en plus. Les coordonnées de la spécialiste sont inscrites noir sur vert sur la porte en toute simplicité. Le parking vide me fait penser que cette dame ne doit pas avoir grande clientèle. Pourvu que ce ne soit pas de ces gens qui se disent spéciaux depuis la naissance et qui savent que leur destin est d'aider les autres à comprendre le leur. Je hais ces hypocrites dépendant d'un ego surdimensionné. Je pense qu'on devrait les éradiquer. Retour au présent. Nous sommes déjà assis sur de vieux fauteuils rouges dans une salle d'attente étouffante. Je ne sais pourquoi, mais j'appréhende le fait de faire face à quelqu'un qui sait, en quelque sorte, manipuler les autres. J'observe la minuscule salle dans laquelle il n'y a que 6 chaises, 2 portes et 1 fenêtre. Pas très accueillant. Nous patientons longtemps, très longtemps. Si bien que mon paternel finit par s'endormir. Et, tout doucement, une des 2 portes, celle dont nous venons pas, s'ouvre dans un silence de mort. Je reste immobile, puis une voix m'invite à rentrer. Voyant que je ne bouge pas, une femme grande et mince sort de l'ombre avec un sourire chaleureux et toute l'atmosphère devient alors plus douce. Bien que je connaisse déjà son nom, Madame Gratula se présente et, sans m'avoir demandé le mien, elle m'invite de nouveau par mon nom à l'accompagner dans la salle qui se trouve derrière elle. Je me lève hésitante et la suis en restant sur mes gardes. Pourquoi suis-je aussi méfiante? Je franchis le seuil de la porte et reste bouche bée devant l'immense salle qui s'offre à moi. La pièce est bien plus grande qu'elle ne le paraît à l'extérieur et beaucoup trop profonde pour ce que permet le bâtiment. Difficile de rester de marbre lorsqu'on est soumis à des feintes de perspective telles que celle-là. J'entends la femme ricaner mélodieusement et sa voix m'envoûte naturellement. Alors, je me tourne vers elle. Madame Gratula s'est assise sur un divan et tapote le velours rouge pour m'inviter à la rejoindre. Je prends le temps d'observer la pièce au plafond très haut où se balancent des lampes modernes. J'inspecte aussi les tapis sur lesquels se posent mes pieds avec méfiance. Ils semblent couvrir tout le sol de la vaste salle. Un bureau de bois sur lequel chaque objet est bien rangé et devant lequel se trouvent 2 fauteuils de cuir. Sur le mur, de grandes peintures au visage style Renaissance nous observent de leurs petits yeux malsains. Je suis enfin arrivée devant elle et n'ai plus d'autre choix que de faire face à cette personne à l'aura envoûtant. Elle ne ressemble pas du tout au monstre que je me suis imaginé tout à l'heure. Cette grande femme aux yeux verlacs et aux cheveux presque blonds est peut-être la plus belle femme que je n'ai jamais vue et que je ne verrai jamais. Elle semble aussi gracieuse et tonique qu'une ballerine, mais me laisse croire, par son teint blanchâtre, qu'elle ne doit pas sortir beaucoup. Madame Gratula m'observe aussi et cela me met étrangement mal à l'aise. Elle lit en moi comme dans un livre ouvert et, pour briser le malaise, se lève du divan et m'invite à prendre place dessus alors qu'elle s'assoit sur une petite chaise à côté. Étant dans la position horizontale, je ne peux que regarder le plafond blanc. Puis, elle commence à parler.
« Tu sais, je n'accepte pas beaucoup de patients en temps normal. Mais quand tes parents m'ont appelé et ont exposé ton problème, qui n'était pas superficiel comme ceux des autres, j'ai accepté de voir ce que je pouvais faire pour toi. Oui, cela peut paraître étrange qu'une adulte indépendante, qui a besoin de se nourrir comme tout le monde, refuse de prendre des patients et de gagner de l'argent. Mais j'ai compris qu'il ne servait à rien d'exercer inutilement, sur des gens aux soucis superflus. Ce qui n'est pas le cas du tien. »
Je tourne la tête pour l'observer. C'est l'une des rares adultes qui me prennent au sérieux. Comment se fait-il qu'une inconnue soit si proche de moi en étant si éloignée? Elle reprend la parole.
« Ferme les yeux et ne fais rien, à part te laisser guider par ma voix. »
Je m'exécute. J'entends à peine dire
« le noir de l'univers »
avant d'être automatiquement endormie. Enfin, pas totalement endormie, mais je sais que mon esprit a quitté mon corps. Penser m'est difficile, si bien que je me laisse léviter. Tout ce qu'il y a autour de moi n'est que le noir, le néant. Comme si j'étais dans un espace sans étoiles. Cela m'angoisse. J'ai l'impression d'être dans une boîte dont on ne peut voir les parois. Ma respiration commence à se saccader et la voix d'une femme, Madame Gratula, inonde mon esprit en me disant de me calmer. Sa voix est accompagnée d'un effet de résonance qui me fait croire qu'elle emplit tout ce vaste espace. Et, une fois de plus, ses simples indications opèrent sur moi si facilement que cela en devient inquiétant. Elle m'apprend que mon esprit se trouve dans le néant et qu'il a matérialisé mon corps pour se rassurer, mais que ce n'est pas mon corps physique. Je comprends ce qu'elle veut dire quand je sens à mes pieds se matérialiser une plateforme. Se crée alors autour de moi un cercle d'immenses portes, toutes d'une couleur différente. J'en compte au total 9. Certaines paraissent bien moins attirantes que d'autres. Madame Gratula déclare alors
« Voici 10 portes. Tu es malheureuse constamment et une de ces portes peut t'aider. Elles représentent toutes une source d'intérêt différent. Et une seule sera la bonne pour toi. Une seule pourra t'aider à comprendre la valeur de la vie. Si celle que tu choisis s'avère être la bonne, tu pourras marcher sans encombre dans l'air. Mais si c'est la mauvaise, tu tomberas dans les profondeurs du néant et reviendras à la réalité sans avoir pu comprendre ce que tu ressens. Surtout, écoute ton cœur. Ton cerveau choisira ce qui est le plus cohérent avec ce que tu as vécu, ce dont tes souvenirs peuvent témoigner du passé. Mais ce qui te guidera est ce que tu ne sais pas. Écoute l'inconnu, car il y a toujours plus explicite que les connaissances que l'on possède dans le présent.
Puis, un silence de mort menace de me rendre sourde. Je comprends alors que le moment est venu de choisir. J'observe une nouvelle fois ces portes dominées d'étiquettes sur lesquelles doivent être écrits leurs noms. Sur celle de la porte jaune, il y a écrit « famille ». Sur l'autre verte, « nature ». Ou bien, il y a encore la rose avec marqué « amour ». Une autre violette, « ami », et ainsi de suite. Toutes des centres d'intérêt bien différents, mais qui pourraient me rendre heureuse. Comment choisir ? Elle m'a conseillé d'écouter mon cœur et ce que le futur pourrait m'apporter, mais comment pourrait-il m'apporter quoi que ce soit que je puisse savoir aujourd'hui ? Cela n'a aucun sens. Dans quoi me suis-je encore fourrée ? J'ai toujours eu le hic pour savoir comment me tirer d'affaires compliquées, mais là, c'est plus que compliqué. C'est une véritable chance que l'on m'offre là et je dois la saisir. Alors, je me mets en face de la grande porte violette, celle des amis. J'inspire et j'expire, me forçant plus que jamais, et alors que mon pied est encore en l'air, que je m'apprête à faire le pas fatidique, un souvenir me revient comme un coup de poing. Une force me rappelle que Madame Gratula a dit
« Voici 10 portes ».
Je ramène mon pied à moi et fais un tour sur moi-même en recomptant les portes.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et il n'y en a que 9 ? Alors la lumière s'allume en moi. Je sais où est la dernière porte. Elle ne porte ni nom ni centre d'intérêt. Elle est avec moi depuis toujours. Je sais qu'à cet instant, mes yeux s'écarquillent plus qu'ils ne l'ont jamais fait. La chose est tellement évidente que je me sens stupide de ne pas y avoir pensé. Moi qui me croyais grande penseuse, cette porte qui fera mon bonheur, c'est celle qui est en moi, la 10e porte, que personne ne peut voir et encore moins me conseiller d'emprunter. Je n'ai donc pas besoin de prendre le risque de faire tomber mon esprit dans le vide, puisque la porte qui est en moi est celle que je choisis de créer. Cette porte secrète est la réponse à ma question. Comment peut-on se rendre heureux soi-même? En écoutant son instinct.